Bonjour, chers auditeurs de Radio Silence. Voici l'actualité religieuse de la semaine. France et Paris. France. SOS Maman vient de publier son journal de bord, suite numéro 45, intitulé « Mai 2011 », que nous avons l'honneur de porter ici à votre connaissance. Je cite « Jeudi 26 mai 2011. Chaque fois, nous tombons des nues. Chaque fois, c'est plus gros. Négociation avec une de ces mères terribles, dont nous connaissions déjà une bonne douzaine en leur achetant littéralement les bébés de leurs filles. Voilà une nouvelle de ces mamans. Sa fille Anaïs, enceinte, a 17 ans. La mère terrible, âgée de 40 ans environ, veut vendre l'embryon de sa fille à un laboratoire et nous demande 15 000 euros si nous désirons que le bébé ne soit pas avorté. Nous négocions à 10 000 euros en lui donnant 1 000 euros par mois jusqu'à la naissance. Jusqu'à présent, en pareil cas, les prix était de 5 000 euros seulement pour un embryon mâle et de 7 000 euros pour un embryon femelle. Tout cela pour quelques fous furieux qui osent s'appeler chercheurs, appartenant à cette médecine perverse qui est au service de la mort, ou alors à des instituts cosmétiques en quête de crèmes toujours plus performantes. L'utérus d'un embryon féminin, pense-t-il, ne serait-ce pas la matière plurivalente idéale pour régénérer n'importe quoi, pas seulement le cerveau des malades Alzheimer, mais aussi la peau des bourgeoises un peu ridées. Nous avons la Faust devant nous, en 2011. Autrement dit, des adorateurs du diable en personne et en arrière-cuisine. Trois considérations. Premièrement, le prix pratiqué de 15 000 euros est exorbitant. Comment expliquer cela? Selon notre meilleur savoir, nous craignons qu'il s'agit là non plus d'avortons morts, mais d'embryons, voire de fœtus vivants, qui sont vendus par ces mères terribles au laboratoire. Pour créer des colonies de cellules souches en charcutant des bébés vivants, on ose à peine l'imaginer. Cela expliquerait pourquoi ces labos attendent presque jusqu'au moment de la naissance pour prendre livraison. Achètent-ils des nouveau-nés? On peut se poser sérieusement la question. Il est vrai que ce trafic est interdit en France, ce qui expliquerait d'une part la flambée des prix pratiqués et d'autre part qu'ils achètent leurs marchandises directement auprès des personnes privées et non pas auprès des avortoirs officiels où ce commerce abominable finirait par se savoir. Deuxièmement, tout compte fait, nous n'envisageons nullement de payer les 10 000 euros en entier. Nous réglerons seulement les premiers 1 000 euros mensuels, deux fois seulement. Ensuite, Anaïs sera majeure et nous lui offrirons de séjourner pour le reste de sa grossesse à l'abri de sa maman dans une ambiance plus saine, chez une de nos magnifiques familles hébergeuses en France ou ailleurs. Troisièmement, ajoutons ceci. L'Église a une longue tradition de rachat des esclaves. Des chrétiens, notamment les ordres des Trinitaires et Mercédaires, s'offraient il y a deux siècles encore en échange des esclaves chrétiens quand l'argent ne suffisait pas à leur rachat. Il n'y a que dans le catholicisme qu'on voit cela. Une fois sur place, à Alger ou ailleurs, ils soutenaient la foi des chrétiens prisonniers, souvent persécutés pour les contraindre à une conversion forcée à l'islam. L'ordre des Mercédaires fut institué par saint Pierre Nolasque, qui est mort 1256 à Barcelone pour le rachat des captifs, c'est-à-dire des chrétiens détenus par les barbaresques. Aux trois vœux habituels, obéissance, pauvreté et chasteté, les Mercédaires en ajoutaient un quatrième, celui de se constituer en otage, quand c'était pour eux le seul moyen d'accomplir leur mission. les chrétiens faits captifs en Espagne occupée par les Maures ou alors en Méditerranée par les corsaires étaient particulièrement à plaindre. Ils étaient vendus comme esclaves aux musulmans d'Afrique. Les malheureux prisonniers se divisaient en deux classes. La première comprenait le capitaine, les officiers du bâtiment capturé et les passagers avec leurs femmes et leurs enfants. Cette première classe était soumise à un travail moins dur que les simples matelots, qu'on vendait publiquement aux plus offrants et aux derniers enchérisseurs. Les enfants étaient presque tous envoyés au palais du Dey ou aux maisons des premières familles, et les femmes servaient les dames mortes ou entraient dans les harems. Force était alors de payer rançon pour obtenir leur délivrance. Grâce à l'héroïsme et à la générosité de ces grands chrétiens, cette mission se poursuivit jusqu'à la disparition de la piraterie. Du XIIIe au XVIIIe siècle, les seuls mercenaires auraient libéré pas moins de 60 000 captifs. Aujourd'hui, les avorteurs ont pris le relais des barbares d'antan en faisant pire. Au lieu d'abuser des gens par milliers, ils les tuent par millions. Mais toujours, des chrétiens sont là pour venir à leur secours, serait-ce à un prix abusif, si seulement une vie humaine créée par Dieu est sauvegardée. Chers amis, continue le journal de bord, faisons-nous autre chose face à ces monstrueux nouveaux esclavagistes que sont ces mères terribles qui vendent les bébés de leurs propres filles, ou face à ces monstrueux chercheurs. Vous êtes tous des mercenaires, chers donateurs. Imaginez la joie de la jeune maman de 17 ans. Cela vous remplira de bonheur pour un bon moment, jusqu'au prochain sauvetage. Bref, Dieu soit loué. Un bébé de plus est sauvé. Cela vaut plus que des milliers de tracts, de vaines paroles ou de soupirs abusés. Champagne. Chers lecteurs, chères lectrices, vous faites partie de nos donateurs ou coopérants et nous nous faisons une joie de partager avec vous, par le biais des extraits de notre journal de bord, nos joies et nos peines. Ce journal devient un monument de l'espérance, prouvant que le crime de l'avortement peut être vaincu par la charité chrétienne. Nous sommes fiers et heureux de vous savoir à nos côtés. Restez-y, s'il vous plaît. Vous faites véritablement partie de l'équipe de SOS Maman. Merci et en avant. Signé SOS Maman, en parenthèse UNEC, boîte postale 70114, 95210, Saint-Gratien, téléphone fax 01 34 12 02 68. sosmaman@wanadoo.fr. SOS Maman en un seul mot et en pluriel. sosmaman@wanadoo.fr. Site internet www.radio-silence.tv. Rubrique SOS Maman. Fin de citation du journal de bord de SOS Maman UNEC. Paris. Un de nos fidèles amis lecteurs, JB, pour ne pas le nommer, nous communique ceci, je cite. Ce lundi de Pentecôte, le 13 juin 2011, un roi vient à Paris en visite officielle. Nous venons d'apprendre que malheureusement il n'y aura aucune personnalité officielle pour l'accueillir. Il ne reste que nous, les petits, les sans-grades, pour accueillir ce roi. En fait, non pas seulement le roi de la France et de l'Europe chrétienne, mais le roi de l'univers. Ne manquons pas ce grand rendez-vous. Le cortège royal entrera à Paris par la porte de Passy, passera près du Trocadéro, traversera la Seine sur le pont d'Iéna entre 14 et 15 heures, longera la tour Eiffel pour arriver place Vauban, devant les Invalides, vers 16 heures. Là, à 16h30, notre roi renouvellera une fois encore son alliance avec nous pendant une messe solennelle. Ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour beaucoup. Et nous tous, les petits, les sans-grades, les exclus, nous chanterons. Vrai roi, tu es dans cette hostie où tu te livres chaque jour. Tu règnes par l'Eucharistie, gagnant les cœurs à ton amour. Fin de citation. Vous avez compris, chers amis, qu'il s'agit d'une immense procession du Saint-Sacrement, la première de ce genre à Paris, où Jésus, dans l'hostie consacrée, roi des rois, trônera sur un magnifique char, accompagné par ses amis les plus fidèles. Combien serons-nous? 5 000? 10 000? Au départ de Chartres, donc samedi 11 juin, nous serons déjà plusieurs milliers, et après 3 jours de marche à pied, l'arrivée à Paris. Alors, lundi, tous à Paris, pour honorer dignement cette royale visite. Fin de citation du message de J.B. C'était donc l'actualité religieuse de la semaine. Au revoir, chers auditeurs, à la semaine prochaine.